Raphaël Raymond, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de State Street Bank. On va parler avec vous d'un sujet important hein, pour les marchés financiers, pour les investisseurs, le sujet qui concerne alors plus particulièrement notamment les assureurs, les questions liées aux nouvelles réglementations Solvency II. Alors, pour les banques, on a beaucoup parlé de Bâle III, effectivement, après ces crises économiques et financières. Si on revient un instant avant d'entrer dans le vif du sujet sur State Street Bank, qu'est-ce que vous offrez, vous, comme service, je dirais, aux investisseurs?
Alors, State Street Bank est une société, une banque extrêmement spécialisée puisque nous nous concentrons sur deux domaines. D'un côté, nous sommes leaders sur les services fournis aux institutionnels et nous sommes l'un des principaux acteurs en termes de gestion institutionnelle. Donc ça, ce sont les deux services que nous offrons. Aujourd'hui, State Street est une société globale puisque nous sommes présents dans 26 pays et nous avons un peu moins de 29 000 personnes, dont 9 000 présentes en Europe. Sur l'Europe, nous sommes présents sur l'ensemble des marchés dits offshore, donc Luxembourg et l'Irlande, et sur la plupart des marchés onshore, dont la France, bien évidemment. En France, nous avons à peu près un peu plus de 300 personnes. Nous faisons à la fois de la gestion et de l'administration. Et en termes d'administration, nous couvrons les métiers dits de back-office, donc conservation, dépositaire, comptabilité, les métiers de middle-office avec tenue de position, gestion du référentiel, produits dérivés, etc. Et enfin, des produits peut-être plus récents qui sont en plein développement, tels que le reporting client, par exemple.
Alors, on peut dire que vos métiers se sont développés et que la crise, quelque part, a amené à de plus en plus de besoins des différents acteurs de parfois d'externaliser, de sous-traiter ces activités-là, notamment on pense au dépôt de titres, et en même temps de savoir ce qu'il y avait quelque part à travers tous ces instruments et donc les questions des données d'actifs, c'est devenu quelque chose de très important.
C'est absolument fondamental dans notre métier. On se rend très bien compte que depuis les années 90, hein, avec une externalisation grandissante, puisqu'au départ, on externalisait essentiellement la partie dite conservation, ensuite on est passé à la partie dite comptabilité de fonds, aujourd'hui le middle office, et puis maintenant avec Solvency II, il y a un besoin de plus en plus important, tout d'abord de conserver des informations et ensuite de les rendre disponibles à tout moment aux différents acteurs, que ce soit le gestionnaire lui-même ou le client du gestionnaire, comme dans le cadre de Solvency II, un assureur ou un réassureur.
Justement, les assureurs, les réassureurs se préparent à ces changements, bien entendu. Qu'est-ce qui est le plus important de votre point de vue, les changements les plus importants qu'amène Solvency II? On a beaucoup parlé de besoin de fonds propres, de fonds propres, sur les actifs, de choix d'actifs différents peut-être de ce qu'il y a aujourd'hui. Qu'est-ce qui change le plus pour vous?
Alors en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que Solvency II fonctionne un peu comme Bâle III. Pas par hasard, les deux éléments sont sortis à peu près en même temps, l'un se concentrant sur les banques, l'autre se concentrant sur les assureurs et les réassureurs. On a trois piliers. Le premier pilier est un pilier plutôt quantitatif, donc qui est là afin d'avoir une meilleure idée de ce que sont les besoins en termes de solvabilité. Et d'ailleurs, il y a deux ratios qui sont importants. Tout d'abord, le minimum requis pour que les régulateurs acceptent qu'un assureur puisse fournir ses services, et ensuite le niveau idéal. C'est le premier pilier. Vous avez ensuite un deuxième pilier qui se concentre plutôt sur, on va dire, la gouvernance, la gestion du risque, tous ces éléments qui sont peut-être plus qualitatifs que quantitatifs, mais qui ont prouvé qu'ils sont absolument importants et fondamentales depuis la crise. Enfin, vous avez un troisième volet dont on parlera plutôt de transparence vis-à-vis du marché, que ce soit pour les investisseurs, pour le régulateur, et qui permettent d'avoir les informations nécessaires, pardon, pour être sûr qu'on a une bonne visibilité sur l'exposition que peut avoir l'assureur.
Alors, il y a beaucoup de débats, bien sûr, sur ces nouvelles contraintes, sur le fait qu'elles vont amener les assureurs à arbitrer sur certains actifs. Alors, est-ce que, de votre point de vue, elles amènent plutôt à peut-être plus de diversification dans les actifs des assureurs qu'auparavant? On voit qu'ils ne sont quand même pas très poussés à prendre du risque, on va dire, pour simplifier.
Alors, si on regarde en l'état, tout d'abord, on se rend compte que la plupart des assureurs ont déjà commencé à modifier leur portefeuille de telle façon à ce qu'ils répondent au mieux à ces deux ratios que j'indiquais, qui sont le SCR et le MCR. Par rapport à ça, il est évident qu'à chaque produit financier utilisés, il y a un niveau de capital requis. Certains produits sont plus consommateurs que d'autres, et également la façon dont vous investissez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous utilisez une multitude de sociétés ou si vous en utilisez qu'une, pour faire schématiquement, le calcul de ratio peut être différent. Donc il y a une vigilance extrêmement importante de la part des acteurs sur l'optimisation de l'utilisation du capital par rapport aux investissements faits.
Alors, on se dit que ça va générer des coûts pour les assureurs, effectivement, de nouveaux coûts pour les assureurs, en tout cas ce qu'envisagent certains investisseurs, il va falloir, par rapport à ces protections, justement, de gestion. Qu'est-ce que ça va changer de votre point de vue le plus au sein de ces grandes maisons?
Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, il y a une première estimation qui a été faite par la Commission européenne et qui évalue à 2 ou 3 milliards d'euros l'investissement nécessaire pour l'ensemble des acteurs touchés sur les 5 premières années. Donc, c'est un montant loin d'être négligeable, pardon. Nous avons également vu qu'un certain nombre d'acteurs ont dû fortement investir, simplement parce que ce qui est demandé aujourd'hui au travers de cette directive, il demande une adaptation ou une modification des systèmes utilisés afin de pouvoir fournir ces informations. Nous savons par exemple qu'un certain nombre d'acteurs ont déjà investi plus de 100 millions d'euros rien que pour mettre à jour l'ensemble de leur système afin de pouvoir répondre à ces demandes.
Ça peut amener, certains l'envisagent, des regroupements, une certaine consolidation. C'est-à-dire quelque part, il y a aujourd'hui peut-être certains acteurs qui ne pourront pas passer ce nouveau cap.
Certainement, je pense qu'il y a tout d'abord 2 ou 3 milliards, hein, signifie que chaque acteur va avoir une augmentation de ses coûts propres et va devoir réfléchir à la façon de répondre à cette situation. D'un côté, il peut ou bien augmenter ses primes, ce qui n'est souvent pas préférable, ou bien de trouver une autre façon de fonctionner, telle que par exemple favoriser l'externalisation. Donc ça, c'est une solution. Maintenant, au-delà de ça, il y a une autre question que l'on peut se poser, c'est en termes de concurrence, également comment on se situe en Europe par rapport à l'extérieur de l'Europe. Et très intéressant cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a un acteur anglais qui lui-même est en train de se poser la question, parce qu'en tant qu'acteur anglais, il a une grande activité, une activité importante en Europe, mais également aux États-Unis, et il se rend compte que l'incidence de solvabilité 2 sur ses actifs américains peut potentiellement le mettre en difficulté par rapport à ses concurrents. Donc il parle de potentiellement bouger son siège social. Donc comme vous le dites, je crois qu'il y a une réflexion fondamentale sur l'impact à la fois entre acteurs européens, mais également au-delà de ces acteurs européens.
Alors justement, on voit des discussions aussi au niveau des députés européens pour peut-être amender, on verra ce qu'il en sort exactement, certaines de ces mesures. Hein, il parle d'extrapolation effectivement sur les valeurs des engagées, donc peut-être un peu moins sensible à si les marchés baissent par exemple. On sent bien ces questions-là. Quand les marchés progressent, il n'y a pas de problème pour les assureurs, mais on sait très bien qu'à certains niveaux, notamment sur les marchés actions, il y a eu des soucis par le passé. Solvency II avait l'air encore de renforcer ces problématiques. Est-ce qu'on va pouvoir aménager un petit peu, effectivement, ces mesures?
Alors, deux choses importantes. Je pense que vous mettez le point sur des aménagements, mais il y a également une histoire de calendrier. Sur le calendrier, hier, il y a eu un vote important qui confirmait la mise en place définitive au 1er janvier 2014. Pour revenir simplement sur un élément important, la directive permet ou bien d'utiliser des calculs standards ou bien d'aller sur un calcul propre à chaque entité, ce calcul devant bien évidemment être confirmé par les autorités compétentes. Et dans le cas où les sociétés décideraient d'aller avec la méthode numéro 2, elles ont besoin d'être prêtes au 1er janvier 2013, puisque finalement on leur demande de faire fonctionner leur modèle sur une année. 1er janvier 2013, c'est demain. Donc il y a un côté temporel extrêmement important. Et la décision hier qui a été confirmée d'aller de l'avant confirme que le calendrier sera maintenu. Donc ça, c'est un premier élément qui clarifie la situation en termes de timing. Le second que vous mentionnez, c'est sur la possibilité éventuelle de revoir certaines de l'impact de solvabilité 2. Et à partir du mois de novembre, nous allons arriver à des discussions sur le niveau 2 de la directive qui, bien évidemment, verront un certain nombre d'acteurs se rapprocher des instances afin de voir s'il est possible de revoir et de s'assurer que ça n'a pas une incidence trop importante sur la façon d'investir, mais également de s'assurer qu'aucune classe d'actifs ne soit exclue du potentiel d'investissement des assureurs, parce que ce serait évidemment dramatique pour ces classes d'actifs.
Effectivement, ça fait partie des risques qu'on a évoqués sur certains actifs, notamment les actions, mais pas seulement. En conclusion, peut-être, on peut parler vraiment de révolution sur cette, parce qu'on parle beaucoup de réglementation. C'est vrai que si on allait regarder dans le détail de cette réglementation, on en a évoqué un petit peu quelques points saillants ensemble, mais c'est une vraie révolution.
C'est absolument une révolution parce qu'il y a cet élément quantitatif qui est beaucoup plus accentué. Donc ça, c'est une norme nouvelle. Pour rappel, les assureurs étaient extrêmement connus pour se concentrer sur une bonne connaissance du passif de leur bilan. Aujourd'hui, cette réglementation leur demande de maîtriser totalement l'actif. Donc c'est une révolution en soi puisque on leur demande de maîtriser la totalité de ce qu'ils ont en portefeuille. Donc en ça, c'est différent. Il y a un côté qualitatif dont on parlait, une gouvernance, c'est un élément qui n'existait pas nécessairement en place et qui va fondamentalement modifier la façon de fonctionner, parce que la gouvernance aura deux éléments. Tout d'abord, ce qu'on va appeler une situation top-down, avec une définition de la stratégie, ce qui peut être fait, comment on peut investir, et une définition bottom-up, qui est plutôt, voilà les problématiques que je rencontre, comment je réagis, est-ce que je l'exclus de mon portefeuille, etc. Donc on se rend bien compte qu'il y a tout un paradigme qui change et qui, bien évidemment, va fondamentalement modifier l'horizon d'investissement des assureurs et des réassureurs.
Eh bien, ça aura bien sûr des impacts importants. Merci Raphaël Ramon d'avoir fait le point avec nous. Rappelez-vous, vous êtes donc le directeur général de State Street Bank.
Merci à vous.